Le premier soir, j'ai parlé de l'éthique, des préceptes. Et que quand on les pratique, ces préceptes, cette conduite éthique, on n'a pas de regrets. Quand on n'a pas de regrets, l'esprit est calme, il n'y a pas d'agitation. Quand nos actions sont en accord avec nos valeurs les plus profondes, il y a de la joie en nous. Donc cette joie, ce calme, ils nous permettent d'arriver à une unification du corps et de l'esprit en méditation, ici en retraite. Cette unification qu'on appelle samadhi. Donc la qualité de la méditation dépend de nos actions, de notre éthique. Donc des qualités qu'on développe en dehors de la méditation. Boaz a parlé hier avec beaucoup d'imagerie, de façon très jolie, à propos de ces états méditatifs auxquels on peut arriver quand il y a ce calme, cette unification d'esprit et du corps en méditation. Ils deviennent très accessibles, ces états en méditation, quand il y a cette unification. Donc déjà en méditation, on se rend compte que nos actions ont un effet. Nos actions ont un effet. Et ici, en retraite aussi, avec le développement de la pleine conscience, nous nous rendons compte quelles actions amènent à la contraction, à la souffrance, et quelles actions amènent à une diminution de cette souffrance, à un relâchement, un épanouissement. Donc on a parlé pendant cette retraite de ces actions des trois poisons. Ce sont des actions de l'esprit, l'aversion, la convoitise, l'ignorance. Et on en a fait l'expérience dans notre méditation. On a vu à quel point ces trois poisons amènent à la contraction. Comme Sophie a partagé d'une belle façon hier aussi, quand on amène une attention juste, bienveillante, accueillante, quand on reconnaît quand ces poissons sont là, il y a la possibilité que ces poissons s'en aillent. En fait, quelque part, ils perdent la force, ils perdent leur puissance, leur raison d'être. En présence de cette pleine conscience, cette bienveillance, cet accueil qu'on a de ces actions d'esprit. Et alors, on a beaucoup parlé de ça, on a parlé, voilà, la colère, elle se dissout, l'impatience, elle s'en va, la peur, elle disparaît. La convoitise, elle disparaît. Mais qu'est-ce qui reste à la place? Le deuxième soir, j'ai parlé avec cette petite histoire de l'homme du parc, si vous vous rappelez. C'était un peu une histoire ludique pour illustrer qu'on fait toujours quelque chose. Donc s'il n'y a pas de la peur, qu'est-ce qu'on fait avec l'esprit? quelle est l'action qui se déroule à ce moment-là? Quand il n'y a pas de la colère, de la peur, de l'irritation, qu'est-ce qui reste à la place? Il y a de l'amitié et de la bienveillance. Quand la convoitise disparaît, qu'est-ce qui reste à la place? La générosité. Mais souvent, l'esprit n'est pas habitué à ces états-là, à ces actions. Donc, il a la tendance à revenir à nouveau à la contraction. Et la contraction, il n'est pas habitué à ce calme, cette ouverture, cette joie de la bienveillance, de la générosité. Et donc, il y a une contraction à nouveau. Et avec la contraction, viennent ces poisons aussi. Donc, le Bouddha, en fait, il a enseigné dans, disons, deux ailes. On pourrait dire les deux ailes d'un oiseau. D'un côté, laisser de côté, abandonner ce qui n'est pas bénéfique, et de l'autre côté, développer ce qui est bénéfique. Donc aujourd'hui, c'est une proposition qu'on va faire les trois enseignants. On va vous proposer, on va faire quelques propositions par rapport au développement. On a beaucoup parlé de l'abandon et là aujourd'hui on va continuer dans l'élan du développement de la bienveillance que Sophie a commencé hier et on va parler de la bienveillance associée à d'autres qualités telles que la générosité, la gratitude. Donc on aura chacun de nous on aura quelque chose de différent, un point de vue différent par rapport à ce développement. Le Bouddha, quand il a parlé d'efforts justes, il a parlé des quatre efforts. Donc, d'abandonner les qualités non bénéfiques qui sont présentes, d'empêcher de surgir celles qui ne sont pas encore présentes, qui ne sont pas bénéfiques, d'amplifier et développer les qualités bénéfiques qui sont déjà présentes et de faire surgir des qualités bénéfiques qui ne sont pas présentes. Donc là, on va parler de ces deux aspects-là, ces deux efforts dont le Bouddha a parlé. Et j'aimerais aborder trois façons, disons, trois voies qui peuvent soutenir ce développement des belles qualités. La première, c'est d'élargir nos intentions. Nous arrivons ici en retraite avec l'intention de l'éveil. Peut-être, de se sentir mieux, de se guérir, de trouver un bon chemin pour sa vie. On arrive avec de très belles intentions. Et une proposition serait d'ouvrir ses intentions pour englober d'autres aspects, d'autres êtres, d'autres personnes. Et le mot personne, je, je reviens sur ce mot parce que dans une des langues, un des dialectes du Mozambique local, le mot personne n'existe pas de la même façon que nous l'avons. Et le mot personne se dit les autres. Donc, dans cette langue, le mot personne, c'est les autres. Je suis les autres. Donc, il y a dans cette culture une connaissance profonde que nous ne sommes pas séparés des autres. Ce qu'on fait ici, on fait aux autres, et ce qu'on fait aux autres, on fait à nous-mêmes. Donc, en élargissant l'attention, on est là pour qui ? On médite, on veut s'en libérer pour qui ? Qu'est-ce qu'on libère ? Et là, j'aimerais lire un petit passage de la doctoresse Matida. Docteur Matida, elle est médecin et aussi auteur et activiste des droits humains en Birmanie. Birmanie a eu l'année passée un coup d'État. Donc, elle a parlé suite à ce coup d'État. Elle a été prisonnière. Elle a été, à cause de ce qu'elle a écrit, de ses livres, elle a été envoyée en prison pour 20 ans. 20 ans en prison. Elle a pu sortir après 6 ans. À cause d'un problème de santé très, très, très grave et à cause de la pression de l'Amnesty International. Elle dit, je crois que la liberté ne vient pas par hasard, mais par choix. Quand on me demandait en prison quelles étaient mes vues, mes opinions, qu'est-ce que je voulais? Je les ai dit, je voulais être une bonne citoyenne, un bon citoyen. Si la liberté est notre droit, on a la responsabilité. Et notre responsabilité, c'est l'humanité. On pratique pour la liberté de l'humanité. Si je peux être en dehors de prison, je ne peux pas être en dehors du samsara. Mais je pratique la méditation et j'applique ce que j'apprends en méditation à ma vie. La deuxième partie que j'aimerais proposer comme voie, c'est d'avoir des bons amis. Les qualités qu'on développe, en tant qu'êtres humains, on le sait déjà, c'est prouvé qu'on est très influençable. Donc ce qu'on développe dépend beaucoup des personnes avec lesquelles on s'entoure. Le Bouddha a dit très succinctement, quand Ananda a demandé des bonnes amitiés, c'est la moitié du chemin. Et le Bouddha a répondu, non Ananda, les bonnes amitiés, c'est la totalité du chemin. Donc c'est central pour arriver à l'éveil, pour arriver à la libération. Et finalement, je voudrais proposer une troisième voie qui est celle de clarifier nos priorités. À quoi donnons-nous l'autorité dans nos vies? À quoi donnons-nous l'autorité? Qu'est-ce que prend notre temps? Comment est-ce que nous dépensons notre argent? Et toutes nos actions dans notre vie ont en effet une implication dans la qualité qu'on est en train de développer. Donc une proposition serait, à n'importe quel moment, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que je suis en train de pratiquer en ce moment? Parce qu'on pratique toujours quelque chose. Et plus on pratique, plus on développe cette qualité. Je voudrais juste mentionner des amis que j'ai qui... Zohar et Nathan. Zohar est israélienne et ils ont créé une association pour rassembler des fonds, pour donner l'opportunité aux jeunes palestiniens pour étudier, sachant toutes les difficultés qu'ils ont d'étudier et d'avoir de l'argent pour pouvoir étudier. Donc, il y a un groupe d'Israéliens qui se réunit et qui crée cette opportunité aux gens de pouvoir contribuer à faire du bien dans une situation qui est très compliquée. J'ai parlé avec deux jeunes femmes qui reçoivent ces aides pour pouvoir étudier, qui racontent leur vie et à quel point ça les aide d'avoir ce soutien. Donc, d'avoir des amis, des bonnes amitiés, c'est aussi de s'inspirer, de voir qu'est-ce qui se passe, de regarder dans le monde qu'est-ce qui se passe de bien et de s'inspirer, de s'impliquer aussi de ces gens. On absorbe ces qualités de générosité des gens qui nous entourent. Et pour finir, j'aimerais juste dire une très courte phrase de Joseph Goldstein, qui est un de nos enseignants, qui a dit « Quand on pratique, la sagesse grandit. Quand on ne pratique pas, la sagesse diminue. » Et ça s'applique pour tout. Ça s'applique pour toutes les qualités, pour la générosité, pour la gratitude, pour tout. Donc il n'y a pas... On pense que ça va se maintenir, mais en fait, ça diminue. Donc, on a besoin de pratiquer. Et j'aimerais donc passer la parole à Sophie, qui va en dire quelques mots un peu plus précis par rapport à cette pratique dont Joseph parle. Comment est-ce qu'on pratique?
La gratitude.
la générosité. Il y a tant d'opportunités de se réjouir, d'être reconnaissant. Tant de petites choses. D'avoir ce luxe de l'eau potable, d'avoir un toit sur sa tête, l'électricité, le chauffage quand il fait froid, la nourriture à profusion, des amis, on parlait Monica, de la famille peut-être, la chance d'avoir reçu une éducation aussi. Pour ramener ça ici maintenant, peut-être simplement d'apprécier d'être assis ici ensemble. De respirer le même air. De comment nous prenons soin des uns des autres afin que tout fonctionne harmonieusement depuis qu'on est arrivé. Est-ce qu'en s'ouvrant généreusement à ça, est-ce qu'on fait aussi l'expérience de recevoir en abondance? Il y a longtemps, j'ai entendu, et je ne me souviens plus le nom, mais un enseignant qui disait « Regarde autour de toi, tout est générosité ici, tout. » On est venu avec rien sur cette terre. Et d'une certaine manière, tout nous est offert. Gratitude. Et malgré tout cela, on a peut-être remarqué cette tendance, cette habitude à regarder ce qui ne va pas, à rester accroché sur ce qui ne va pas, sur ce qui est disharmonieux dans nos vies. Ce qui est difficile. Ah, peut-être parfois privilégier le négatif au détriment du positif. Alors, qu'est-ce qui pourrait aider là? Qu'est-ce qui pourrait soutenir pour retrouver le chemin de la maison vers cette bonté, cette gratitude, à se souvenir de la beauté, de l'abondance de la vie, de se souvenir de prendre le temps de remercier. Et l'ouverture, la cultivation de la générosité peut vraiment nous aider en ce sens, à nous rediriger, à nous reconnecter. La générosité qui fait émerger cette gratitude, mais à l'inverse, la gratitude qui va renforcer notre envie de donner, qui va renforcer l'envie de partager, qui va nous amener à nous offrir d'une certaine manière aussi. Et on pourra aborder cette pratique de la générosité, de la gratitude comme une pratique de relation, une pratique relationnelle. Parce que là, si on y regarde de plus près, la générosité, la gratitude, c'est quoi? C'est d'être en relation avec, toujours, avec autre chose. Ça résulte vraiment d'un mouvement qui va vers, qui se relie. J'ai de la gratitude envers la vie, envers la vie. J'ai de la gratitude envers une attention, un cadeau, un don. J'ai de la gratitude envers une personne. J'ai de la gratitude envers une réalisation que j'ai peut-être eue cette semaine ici. De la gratitude envers un acte vertueux que je viens de poser ou dont je viens d'être le témoin peut-être aussi. Et de voir que ce sentiment, il émerge à partir d'un espace où le cœur est ouvert. Et qu'il est vraiment intimement lié à une attitude généreuse envers soi-même et autrui. Et quand on s'offre ce cadeau, pour reprendre les mots de cet après-midi de Monica, quand on s'offre ce cadeau d'aborder toutes les expériences de vie dans cet esprit-là, hein, comme une opportunité d'apprendre, de grandir, hein, ben le cœur, il est automatiquement reconnaissant. Et de voir à l'inverse aussi, que lorsque le terrain de notre cœur est aride, que les choses sont difficiles, eh bien on se ferme, on se tend, comme on l'a tellement dit et redit. Et que ces instants-là, ils sont peut-être accompagnés d'un sentiment, cette fois, de déconnexion. Un sentiment peut-être d'isolation, de séparation aussi. Et Maurice Zindel, qui était un moine suisse, qui a beaucoup passé de temps dans le silence, qui a beaucoup écrit sur le silence, disait ceci. Quand nous nous enfermons en nous-mêmes, nous devenons quelque chose. Quand nous existons dans l'échange avec un autre, nous devenons quelqu'un. Il y a peut-être ici cette notion de reconnaissance, encore une fois, quand en s'ouvrant à ce qui est là, on se relie. Il y a plus d'espace. Une relation inclusive qui embrasse tout, plutôt qu'elle ne discrimine. Et quand on est dans cet espace-là, on est au cœur du vivant. Le canon Pali répertorie les différentes façons dont s'exprime le don au nombre de 8, qui s'appelle le Dana Watu. La première chose, c'est que le don, il peut être spontané. On voit quelqu'un dans la rue qui cherche son chemin spontanément, on va aller lui offrir notre aide. Spontanément, peut-être, quand on voit une personne qui pleure, on va amener une écoute, on va la prendre dans nos bras. Il y a cet élan spontané, cet élan de générosité. Là, c'est vraiment l'expression de la générosité qui repose sur une profonde compréhension du lien qui nous unit, et qui nous relie à chaque chose. On connaît tous la peine, je pense, on connaît tous les larmes. Et on reconnaît en l'autre ce que l'on reconnaît en soi. Ce don aussi, encore une fois, il peut être exprimé, il peut être conditionné, intentionnel. Par exemple, la crainte, ça peut favoriser l'envie de donner. Dans le sens de la peur de la conséquence de ses actes. On sait que certains actes, certaines actions nous amènent dans le mur, amènent de la souffrance, font souffrir autrui. Ici, là, dans cette catégorie-là, il est mention dans ce sutta de la peur d'une mauvaise réincarnation. Il est aussi mention de la peur de l'enfer dans certaines traditions et certaines cultures. Le don peut s'exprimer à travers aussi la pensée de vouloir donner en retour. Lorsqu'une personne nous a rendu service, eh bien, on a à notre tour, on a envie d'être là, généreusement, en cas de besoin. Et aussi la pensée qu'on puisse éventuellement recevoir quelque chose. Anticiper sur la possibilité que quelqu'un puisse nous faire un cadeau, par exemple. Et là, on prend alors les devants, en prévoyant aussi un cadeau en retour. Il y a également la pensée de vouloir donner sans attendre quoi que ce soit en retour, cette pensée altruiste. Et là, les textes donnent l'exemple d'une personne qui cuisine et qui pense qu'elle devrait cuisiner avec ceux qui ne préparent rien du tout. Parce qu'elle pense, au fond, par générosité, qui ne serait pas juste de ne pas partager sous prétexte que les autres ne donnent rien.
La générosité peut également prendre racine aussi dans le désir de bénéficier d'une bonne réputation, d'être apprécié, d'être aimé aussi. Et en dernier lieu, l'intention de pratiquer la générosité simplement parce qu'elle embellit et elle anoblit l'esprit. Et dans tous ces cas de figure, qu'est-ce qui se passe ? On se connecte, on se relie, on s'ouvre. Et là, le sentiment de gratitude, il n'est jamais très loin. Et au fond, j'ai envie de poser une question là. Est-ce que la cultivation de la générosité, c'est pas simplement une des innombrables portes d'accès à notre vulnérabilité qui fait notre humanité ? Et à cette pratique de la générosité sous tous ses aspects, eh bien, le Bouddha, encore une fois, dans les textes, décrit quatre résultantes à cette pratique-là, quatre conséquences à cette action de générosité, de gratitude. La première, que Monica a déjà mentionnée, c'est la joie. Donner, ça apporte de la joie. Ça rend autant heureux pour celui qui va donner que celui qui va recevoir. Parce que recevoir, on peut aussi le voir comme un acte de générosité aussi. Recevoir, ça implique de s'ouvrir. C'est aussi se soumettre à ce qui va au-delà de soi. Au-delà de ses opinions, au-delà de ses idées. Recevoir, c'est aussi apprendre à s'ouvrir au refus, à la critique, à ce que les choses n'aillent pas comme on le souhaiterait, comme on l'a vu toute cette semaine. Et Mère Teresa, elle décrit ça, je trouve, magnifiquement. Elle disait que pour recevoir, il fallait être vide de tout et surtout de soi-même. Pour recevoir, il ne faut rien avoir. Il faut être intérieurement nu, sans aucune attache, sans aucun recours, sans avenir, sans passé. Il faut être à la merci de tout, dans la faiblesse même, absolue et irréversible. Le deuxième fruit de cette pratique de la générosité, c'est qu'elle contribue à la longévité. La longévité dans le sens qu'elle perpétue la vie. Elle est féconde, cette générosité. Lorsqu'on s'assoit sur les rebords du monde, on constate que la générosité, elle est au cœur de la nature. À travers le mouvement de la naissance, de la vie, de la vieillesse et de la mort aussi. Le cycle des saisons, la nourriture qu'elle pourvoit en abondance, le cycle de la femme qui perpétue la vie, la nature qui, comme en ce moment, à l'arrivée du printemps, nous offre ses plus belles couleurs. Nature qui se donne sans condition. Et en ces instants-là, il semble vraiment que la générosité habite vraiment toute chose. Devant tant d'abondance, il est quasi impossible de ne pas tomber dans l'admiration et d'être inspiré. On voit de même avec les êtres. Généralement, on a de l'affection, on a de l'admiration pour ceux qui offrent, pour ceux qui donnent, qui partagent, qui se donnent. Ils sont souvent une source d'inspiration pour nous. Ils nous donnent l'envie de marcher sur leurs traces. Gratitude. La troisième faveur que dispense un cœur généreux, ce qui permet de se relier à la beauté. La beauté du monde, la beauté du cœur humain. En effet, lorsque les relations sont harmonieuses, lorsque l'espace est voué à ce mouvement du donner, recevoir, du don gratuit, qu'il y a de la joie, qu'il y a de la paix, sur le plan sensoriel, ça ne passe pas inaperçu. Et là, on est vraiment au contact d'un esthétisme délicat et intime. Sentiment de gratitude. La quatrième conséquence à cette cultivation-là, dont parle le Bouddha, c'est la force, l'énergie qui découle du don. En nourrissant son enfant ou une mère, elle permet au bébé de recevoir les forces, les nutriments nécessaires pour grandir, se développer, s'épanouir. Et on pourrait également relier cette force à la force que confère un esprit confiant, posé, rassemblé, en paix. Un esprit qui reconnaît que c'est en allant au contact de la vie qui nous traverse qu'on va trouver refuge, qu'on va se sentir connecté. Et encore une fois, une invitation à oser prêter attention, à oser être à l'écoute, oser la curiosité, oser aller à la rencontre de ce qui se passe en soi, plutôt que de remettre la faute sur l'extérieur, comme disait Monica, la faute sur la situation, sur le dos des autres, plutôt que de rencontrer avec ouverture ce qui se passe là. Est-ce qu'on pourrait finalement laisser cette gratitude réenchanter nos vies, nous reconnecter avec la sagesse qu'un cœur paisible et posé engendre? Reconnaître finalement que cette générosité, cette gratitude, elle est partout, elle est vraiment au cœur du vivant. Cette vie qui est relation avant tout. Et avant de passer la main à Boaz qui offrira un autre aspect, un autre angle d'approche, je voudrais laisser le mot de la fin à Franz Kafka, qui nous rappelle de manière très enthousiaste à quelle attitude intérieure nous pouvons nous fier, et ainsi laisser le flot de la vie s'exprimer en nous sans contrainte, le laisser nous rappeler que lorsque nous nous en remettons au bras de l'existence, nous finissons par véritablement retrouver le chemin de notre humanité. Et il dit ceci: il ne faut pas quitter ta chambre. Reste assis à ta table et écoute. Tu n'as même pas à écouter. Attends simplement. Tu n'as même pas à attendre. Apprends juste à rester tranquille, calme, solitaire. Le monde s'offrira alors à toi et te proposera de le démasquer. Il n'aura pas le choix, il roulera en extase à tes pieds.